Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, direction le Mali avec Eva Rock et direction la Belgique avec Bertrand Chameroy. Notre invité, c'est le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus pour la direction du concert de clôture du Lille Piano Festival. C'est ce dimanche et c'est absolument prodigieux. Hélène Manrino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, plus de 2000 notes jouées en 3 minutes. Oui, c'est possible. L'or d'Autriche nous fera découvrir ou redécouvrir Paganini et puis des mezzés à profusion en terrasse ou pas. Charlotte Langrand nous en dira plus.
Mais oui, des mezzés, Philippe.
C'est la voix des Baroques qu'on entend et que je salue. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Quel boulafre, bonjour.
Hein. Bertrand, c'est l'heure de votre grande veille et je l'ai dit, vous nous faites sacrément voyager ce matin.
Exactement, puisque je vous emmène en Belgique.
Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à cette affaire dehors des cafés?
Alors précision, voilà. Contrairement à ce que vous seriez tenté de penser, il ne s'agit pas d'une réplique de François Damiens dans Dickeneck, même si vocalement nous avons clairement affaire à un sosie. Non, la personne que vous venez d'entendre, c'est Raoul Hedebeau, député fédéral et porte-parole du PTB, parti de la gauche radicale belge. Si vous pensiez que la crise sanitaire nous avait offert le summum de l'incompréhension, une farandole de règles insaisissables, vous n'avez encore rien entendu. En séance, Raoul a décrit l'absurdité des règlements concernant les bars belges pendant l'euro.
Donc en gros, en Belgique, on va pouvoir rester donc jusque 22 heures à l'intérieur. À 22 heures, Idrin Buiten, tout le monde dehors. Pour aller tout simplement, où ça? En terrasse. Parce qu'en terrasse, chers collègues, en Belgique, on pourra rester jusque 23h30.
Seulement problème. C'est vraiment François Damien. Seulement problème, au bout de 45 minutes, que se passe-t-il? Il y a la mi-temps.
Ça veut dire quoi? Il y a un match des Diables Rouges qui va jouer. 21h, début du match. 21h45, c'est la mi-temps. À la mi-temps, il y a tous les supporters qui vont sortir du café à la queue leu-leu. Bah là 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 là, on est en train de gagner.
Alors non, Raoul, on s'emballe pas.
C'est un député. Hein.
Oui, oui, on s'emballe pas. Remember la dernière Coupe du Monde. Hein. Bon. Oui, c'est gratos, mais un petit rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. Bref, là, c'était concernant les règles à l'intérieur des établissements. Voici celles pour l'extérieur.
On sera donc maximum 400 pour regarder en grand écran à l'extérieur. Sauf 400 debout pour regarder le match. Sauf, chers collègues, si on peut boire des bières. Si on peut boire des bières, c'est 400 assis.
Quoi?
Assis, oui. Oui, ça reste la Belgique. Vous cherchez le rapport? Lui aussi.
C'est bien connu. L'absence de bière fait que le virus, il monte le virus. Il sent qu'il n'y a pas de bière. Il dit c'est dangereux. Je monte à 1m50.
Alors là, on sent qu'il commence à saturer. Il est à bout. Mais attendez. Voici la suite.
À 23h30, on peut être à 10 pour se promener dans les rues en Belgique. Sauf qu'à minuit, on passe à 3.
Alors là, clairement, Jean Castex est battu par KO au niveau règle. What the fuck est le meilleur pour la fin? La conclusion de Raoul et de Beau.
Allez, tu reviens à la maison. Là, t'es 3, tu reviens à 4. Parce qu'il y en a un qui est rentré par la fenêtre. Hein, on n'arrête toujours pas. Non, vraiment. Chers collègues, je viens de vous dire. Et tout ça, ça se discute sérieusement dans un Codeco demain.
Voilà. J'espère que vous avez tout bien suivi parce que vous allez devoir me résumer les règles par écrit et je ramasse les copies dans une minute.
Merci, Bertrand. Il est très, très drôle, ce député. Eva, c'est l'heure de votre zapping. Vous avez choisi, vous, d'évoquer un reportage.
Oui, un reportage qui sera diffusé dimanche dans le 13h15, présenté par Laurent Delahousse. Un reportage intitulé Ma guerre au Mali, loin de vous, réalisé par quelqu'un que vous connaissez bien, Philippe. C'est la journaliste Dorothée Oliéric qui a suivi pendant 6 mois 3 soldats français engagés dans la force Barkhane au Mali. Une femme et 2 hommes. Pour Amélie, c'est une première sortie sur un terrain de guerre. À 30 ans, cette ancienne femme de ménage, mère célibataire de 2 enfants, a choisi l'armée. Et à quelques jours du départ, eh bien, il faut tout organiser, évidemment. Trouver les mots aussi pour rassurer ces 2 garçons.
Qu'est-ce qui t'inquiète, toi?
Qu'est-ce qui m'inquiète? C'est que maman meure. Ça, oui, qu'elle meure. Mais il ne faut pas que je m'inquiète parce que je sais qu'elle ne va pas mourir. Elle a peu de chance qu'elle meure.
Et vous allez l'entendre au cours de ce reportage, la mort, elle est partout, tout le temps. Christophe, qui est maréchal du logis, le sait parfaitement. Il multiplie les missions dans le monde depuis des années et lui aussi s'apprête à s'envoler pour le Mali. Et lui aussi, il va tenter de rassurer ses enfants et son épouse.
Quand tu m'as annoncé qu'ils allaient partir au Mali, ils n'étaient pas du tout d'accord. Enfin, pour moi, c'était vraiment la dernière des destinations qu'il aurait pu faire. Voilà, c'était ça, quoi. Et j'avais dit, il m'avait dit c'était pas encore sûr, mais au final c'était sûr quand même.
Non.
Du coup après, oui, non. On accepte, mais bon.
Ça culpabilise, oui, bien sûr. On a l'impression d'être un égoïste en fait, de vivre de sa passion, de vivre de ce qu'on aime, mais de ne pas. En gros, l'armée et moi, on ne laisse pas de choix aux familles.
Et voilà, et pour Philibert, le troisième témoin de ce reportage tourné entre la France et le Mali, l'armée est un engagement de chaque instant. Polytechnicien, il va devoir gérer un groupe de 30 hommes sur le terrain. Et c'est un jeune homme, fraîchement marié, à Gwendoline.
Alors le mariage, vous avez décidé de le faire avant ce départ au Mali.
En fait, c'est plus au cas où. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Philibert voulait quand même que je sois reconnue dans ma place de compagne.
D'épouse.
Voilà. Ça veut dire que je pleurerai pas.
Alors elle a essuyé quand même quelques larmes, Gwendoline. Penser à la mort tout en pensant à l'avenir, ça paraît paradoxal en fait. La mort, elle est partout, vraiment, elle les accompagne, ces soldats. Ils s'en accommodent plus ou moins bien d'ailleurs. Et puis au détour d'une séquence, il y a ces mots de Christophe qui m'ont figé.
Je vais vous donner quelques petites modalités là sur le camp. J'aime pas trop parler de ça, mais bon, il faut le dire. Si jamais il arrive un pépin, vous avez la possibilité de faire un testament militaire, ici sur place, pour prévoir malheureusement ce qui peut arriver. Ok ?
Dans la poussière et la chaleur du Mali, petite précision, il fait 60 degrés dans les blindés. On suit ainsi le destin de ces trois personnes. Ils évoluent, ils grandissent en fait, font face aux difficultés et on les suit avec eux. Le reportage permet en fait de donner de la chair à ces femmes et à ces hommes en uniforme dont les visages s'affichent sur nos écrans malheureusement qu'en cas de drame. Et il nous rappelle en fait que derrière cet uniforme, il se cache aussi des histoires personnelles, des histoires de famille. C'est un sujet très fort à voir dimanche sur France 2 à 13h15.
Merci beaucoup Eva Roch, merci beaucoup Bertrand Chameroy, on vous retrouve lundi après votre week-end en Belgique notamment, si j'ai bien suivi. Dans un instant, notre invité, une figure et des médecins, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus. En attendant, musique dans un autre genre, Olysses.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. You shouldn't speak too loud. You shouldn't laugh so much. Keep your thoughts for you. Be polite, be lady. Or people think you're scary. Think you're scary. On and on and on and on and on. I don't wanna be what they want me to be. On and on and on and on and on. Focus on my skills. At the end I want.
Thank you all, I'm fine. C'était Olysses sur Europe 1. Dans un instant, musique, un autre genre. Notre invité, le grand chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, une légende même, j'ai pas peur des mots, à l'occasion du Lille Piano Festival. Ça démarre ce week-end. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Claude Casadesus.
Bonjour, cher ami. Je n'ai pas mon masque, mais je suis vacciné. Hein.
Voilà, moi aussi, je suis vacciné, mais je mets mon masque par solidarité avec ceux qui sont obligés de le mettre. Vous êtes chef d'orchestre, célébrité mondiale. Vous avez créé en 76 l'Orchestre National de Lille que vous avez dirigé pendant 40 ans. Vous n'êtes pas à la retraite pour autant, loin de là. C'est un mot que vous détestez à l'âge de 85 ans. J'ai lu ça dans les papiers. Il est écrit, il a 85 ans, il en paraît 20 de moins. C'est vrai, vous mettez europe1.fr, vous allez voir la tête et l'allure de Jean-Claude Casadesus. Votre actu immédiate, c'est la direction du concert de clôture du Lille Piano Festival. Festival que vous avez fondé. Ce concert de clôture, ce sera dimanche. Et le festival se tient ce week-end pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. D'abord, le concept du Lille Piano Festival. Festival que vous aviez créé en 2004 à l'occasion des festivités de Lille, capitale européenne de la culture.
Tout à fait. Bah, écoutez, c'était l'émanation de rencontres que j'avais organisées en mémoire de mon cousin Robert Casadesus, qui était destiné à donner la parole à de jeunes musiciens lauréats de grands concours internationaux. Ça s'est transformé, je l'ai transformé en 2004 en un festival qui accueille les plus grands artistes, vous savez. Ouais.
Mais pourquoi le piano ?
Bah, le piano, vous savez, c'est un instrument, voilà, c'est un instrument phare, c'est un instrument mythique, c'est un instrument qui véhicule des
alors
émotions.
Vous avez oublié le concept de départ. Vous avez oublié le concept de départ qui m'a tant séduit, c'est que c'est un festival de piano, mais c'est pas forcément un festival de piano classique. Ça mélange les genres.
Ah, c'est tout, oui, ah. C'est tout. Tous les claviers. Hein, c'est un festival de tous les claviers. Vous avez y compris l'accordéon, le bandoneon, mais aussi les instruments à percussion, le marimba, le piano, l'orgue. Mmh. Et c'est un festival.
Et tous les genres de musique.
Et le jeu, voilà, le jazz en or, on travaille avec eux. Et puis, le classique, l'électro. Enfin voilà, il y en a absolument, je crois, pour tous les goûts, ouais. Pour montrer que la musique est un langage absolument universel dans tous les domaines.
Je ne sais même pas par quoi commencer pour le programme. Je me suis imprimé le programme. Je me suis agrafé, j'en ai fait 6 pages. Qu'est-ce qu'on peut annoncer à part votre concert de clôture?
Écoutez,
le dimanche soir?
Il y a le concert d'ouverture avec Lucas Debargue sous la direction d'Alexandre Bloch et le concert de clôture avec moi. Alors, entre-temps, avec Cyril Tibérien, ouais. Qui est un très très grand pianiste avec qui j'ai une grande joie de retrouver. Et puis, alors, vous avez 25 artistes. Ouais. Vous avez les derniers lauréats du concours Reine-Elisabeth, du concours Marguerite Long, etc. Enfin, il y a un florilège d'artistes tous les styles qui, en 3 jours, ne peut que, je crois, ravir ceux qui aiment vraiment la musique.
Je n'avais jamais vu ça. Il y a de tout. Il y a de la musique classique, vous l'avez dit. Il y a des trios de jazz. Il y a des percussions avec une classe de percussion. Il y a de la musique traditionnelle médiévale arménienne. Je ne savais même pas que ça existait.
Eh bien, oui, c'est vrai. On cherche et on trouve avec des relations extraordinaires. Depuis l'harpe celtique jusqu'à la musique médiévale.
Il y a ce concert dont j'aime beaucoup l'intitulé « Beethoven, si tu nous entends ». Donc j'aime bien la vanne. Je rappelle pour les tout-petits que Beethoven était sourd. Je dis ça parce qu'il a marqué « dès 8 ans ». Donc là, c'est à l'attention des enfants, justement. C'est de l'initiation, j'imagine.
C'est-à-dire qu'il a eu des problèmes qui se sont développés à 25 ans et qui étaient à la fois la tragédie de sa vie et en même temps, il nous envoie des messages d'espérance tout
mais
à
ce
fait
concert,
extraordinaire.
Ce concert spécifiquement « Beethoven, si tu nous entends », c'est pour les tout-petits? C'est pour les enfants.
C'est pour tout le monde, parce que vous avez un chœur magnifique, et le chœur des Hauts-de-France, dirigé par Éric Deltour. Vous avez un orchestre qui est l'orchestre de Picardie, parce que c'est pas mon ex-orchestre, c'est l'orchestre de Picardie cette fois-ci. Mon ex-orchestre n'était pas libre dimanche soir. Et vous avez cette espèce de florilège de musique de Mozart, puisque nous commencerons avec le 23e concerto de Mozart, qui est un véritable opéra au clavier, qui est une beauté de sensibilité, et puis terminer avec cette fantaisie qui est la préfiguration de la 9e symphonie de Beethoven, qui est un formidable chant d'espérance.
Fantaisie pour piano, chœur et orchestre. J'ai pas trouvé d'enregistrement, j'ai appris qu'il n'y en avait pas quand vous êtes arrivé dans ce studio, j'étais content. J'ai choisi
beaucoup,
une version, oui. Il fallait bien choisir. J'avais celle des Forbans, plutôt j'ai pris la version de Daniel Barenboim avec le Philharmonique de Berlin.
Ah ben le pire, oui.
Free!
Malheureusement, il faut interrompre l'œuvre. Vous connaissiez cette version ?
Je ne la connaissais pas, mais Barenboim est un magnifique pianiste et un amoureux de Beethoven, et l'orchestre philharmonique de Berlin est un des plus beaux du monde.
Petite question, est-ce qu'il y a parfois de la jalousie à entendre une version très réussie par un confrère, comme parfois les humoristes disent « Tiens, cette vanne, j'aurais bien aimé la trouver moi ».
Ah non, une jalousie, non, le regret de peut-être pas avoir trouvé la bonne idée que d'autres ont célébrée. Non, pas du tout. Enfin, alors moi, le mot jalousie est quelque chose qui fait pas partie de mon logiciel. Au contraire, c'est inspirant quand on peut être guidé par une autre approche. Et ça vous incite à mieux réfléchir à ce que vous voulez traduire.
J'aime cette énergie, j'aime cet enthousiasme, j'aime ce sens du partage. Vous restez avec nous, Jean-Claude Casadesus.
Mais avec joie.
Moment attendu de l'émission, c'est le portrait inattendu. C'est Hélène Manarino qui arrive.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Claude Casadesus, on parle du festival Lille Piano Festival. Et je suis heureux d'accueillir dans ce studio Hélène Manarino. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Petite question personnelle, car vous êtes un peu une régionale de l'État par rapport à Lille. Ils font quoi vos parents ce soir, Hélène ?
Ce soir, mes parents vont au concert d'ouverture à Lille.
Du festival. Bravo, hein. Bravo. Je suis. Quel accueil.
Elle nous l'a dit en entrant dans ce studio. Et je me dis, on va le dire, ça va faire une très belle entame. C'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino, c'est à vous.
Bonjour Jean-Claude Casadesus, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, en général, je commence ce portrait par le surnom de l'invité, vous en aviez un, Nono, mais votre papa détestait, donc ce surnom n'est pas resté très longtemps. Jean-Claude Casadesus, vous êtes un grand, grand passionné de tennis, vous y jouez depuis toujours. Comme vous dites, le tennis me fait respirer, c'est ma joie, mais vous jouez 2 heures dès que vous pouvez, vos adversaires ont parfois 30 ans de moins que vous, mais ils n'arrivent pas à vous suivre. Alors ce matin, je vous propose que l'on fasse finalement un peu le match de votre vie, avec un premier service, l'enfance, petit garçon rêveur, avec votre chambre du 6e étage. Vos parents étaient souvent au théâtre, donc le soir vous étiez gardé par des nounous. Vous aimiez ne pas vous coucher avant le retour des parents, sauf qu'il fallait le faire pour ne pas vous faire disputer. Vos parents venaient toujours vous faire un bisou quand ils rentraient. Vous faisiez attention d'éteindre la lampe de chevet de votre chambre 1 heure avant le retour, pour pas qu'elle ne soit trop chaude. Wow. Car il vérifiait.
Oh non, c'est la Stasi, les parents.
Ah oui, j'étais sous surveillance. Ouais.
Vous n'aimiez surtout pas décevoir votre maman, dont vous étiez très très proche.
L'immense comédienne Gisèle Casadesus, que j'ai eu la chance de connaître.
Et oui, la nuit, vous aviez peur parfois, donc avec votre lampe torche, vous faisiez des signes à votre sœur qui se trouvait dans sa chambre à l'autre bout du couloir. Votre sœur qui vous a toujours beaucoup admirée, d'ailleurs, et que vous embarquiez dans vos bêtises, vos activités. Vous aimiez jouer aux arcs, aux fléchettes. Vous disiez « Je suis très adroit de mes mains ». Et vous avez un jour demandé à votre sœur de se mettre debout devant un mur, une pomme sur la tête, et vous deviez viser la pomme. Bon. Et vous avez visé à côté, ouais, heureusement.
Ouais, sinon, c'était son ex-sœur.
Vous n'aviez pas peur de grand-chose. Vous aimiez vous cacher sur le balcon du 5e de chez vous pour tirer avec un fusil à plomb en bas sur les glaces du marchand de glace pour qu'elles explosent sur le visage des passants.
Attendez, c'est vrai ça ?
Les glaces de Monsieur Roméo. Vous visiez toujours très très bien. Parfois, vous jetiez du pain et des biscottes. Ouais. Et le concierge avait tout récolté. Il avait tout montré à vos parents. Ils étaient très très fâchés. Jean-Claude Casadesus, vos plus belles balles échangées, ça concerne la musique évidemment. Quand Robert Casadesus venait chez vous jouer du piano, vous étiez très très impressionné. Vous preniez le temps de nettoyer ce piano pour que tout soit propre quand il arrive. Votre grand-père vous a appris les premières notes de musique et vous avez commencé d'ailleurs par le violon, puis les percussions au 7e étage de l'atelier de vos parents. Vous ne vous arrêtiez plus. Alors Jean-Claude Casadesus, la musique, oui, mais aussi l'amour. Ah. Vous étiez très amoureux d'une petite fille du square à côté de chez vous, et à l'âge de 5 ans et demi, vous lui avez écrit une lettre où il y avait de grosses larmes dessus, et cette phrase était écrite « Puisque tu ne veux pas faire des cabanes de chaises avec moi. » Trois petits
points. Oh là là. Et mon père m'avait dit « Sois un homme, résiste !» Et j'étais bouleversé déjà par une sensibilité un tout petit peu trop prenante.
Mais ce chagrin d'amour ne vous a pas empêché de rêver. Jamais vous aimiez être sur le balcon pour regarder les avions de la guerre passer. Les adultes vous demandaient de descendre à la cave, mais vous ne vouliez jamais. Vous n'aviez pas peur. Vous vouliez voir les Américains arriver à Paris. Tout cela vous émerveillait. Vous pouviez regarder le ciel de Paris pendant des heures. Jean-Claude Casadesus, vous aviez envie de tenter plein d'activités, enfant, notamment l'équitation, mais cela coûtait trop cher. Un jour, vous avez rédigé une rédaction sur le cheval, très bien écrite. Elle a été publiée sur la première page du Figaro. Votre récompense, recevoir l'équipement pour faire de l'équitation et la possibilité d'en faire, enfin. Vous avez toujours aimé le sport, les sensations fortes, encore maintenant, à plus de 80 ans. Tout le monde s'inquiète pour vous, alors que vous gérez absolument tout. Vous continuez le cheval, par exemple, sans mettre de bombe. Mais comme vous dites souvent, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Vous avez une hygiène de vie parfaite. Le matin, petit déjeuner crétois, du thé, pain avec de l'huile d'olive, du citron et une pomme. Tous les matins, votre réveil, sport pendant 20 minutes. Vous cuisinez le maigre en croûte de sel à la perfection. Vous aimez le lièvre à la royale. Oui. Et vous faites surtout rire les autres avec vos imitations de Gainsbourg et d'Aznavour. Alors, Jean-Claude Casadesus, jouer vous amuse? Jouer au feu rouge, par exemple, vous faites toujours un décompte pour qu'il passe au vert, en essayant de deviner.
Et ça marche?
Combien de secondes il change de
Quand
couleur?
Quand ça marche, je suis très heureux, je me dis la journée va être bonne. Ouais.
Alors, vous avez toujours été libre, Jean-Claude Casadesus, dans vos convictions, vos envies, vos valeurs, la liberté de rire, de jouer, de penser, la liberté d'opinion dont on a tous besoin, une chose essentielle dans la vie de chacun. Vous avez joué vos plus belles parties et on a tous envie d'être en face de vous pour vous regarder. Jouez encore.
Wow. Où est-ce que vous avez appris tout ça?
C'est Hélène Manarino. Elle donne jamais ses secrets. Jamais. C'est comme vous, vous donnez pas vos secrets.
Bon, si on me les demande quelquefois, voilà. Enfin, j'en garde un peu pour moi.
Réaction à ce portrait? Il y a des affaires incroyables, il y a des dossiers.
Exact, hein. À part les miettes de pain, c'était des boulets de charbon que j'envoyais. Et les gens croyaient que ça tombait des avions. J'envoyais ça sur le toit d'en face.
Pardon, vous demandez ça? Vous êtes né en quelle année?
En 35.
En 35, donc
Je vais avoir 86 ans.
Vous aviez quel âge quand vous tirez
J'avais 10 ans.
À la carabine sur le marchand de glace.
Ouais, j'avais 9 ans. Non, c'était un pistolet à plomb.
Ah, d'accord.
Alors, il y avait le marchand de glace, et alors, dans leur coupe, je tirais, et alors la glace faisait dioup. Alors évidemment, ils ne savaient absolument pas d'où ça venait, et nous, on avait le fou rire.
Maintenant, ils savent. Merci Hélène Manarino, bon week-end.
Bon week-end, allez-y.
Culture Média, continuons à parler de musique encore avec Laure d'Autriche, qui va nous faire découvrir un virtuose, évidemment en compagnie de Jean-Claude Casadesus. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Claude Casadesus, on parle de musique, on parle du Lille Piano Festival. On va parler de musique avec Laure d'Autriche. Vous avez commencé par quel instrument, Jean-Claude Casadesus?
J'ai commencé par le violon que Pierre Monteux, meilleur ami de mon grand-père et mon grand-père, m'ont mis dans les mains en décrétant que j'avais le sens du rythme et que peut-être je serais chef d'orchestre. Ouais. J'avais 5 ans, 4 ans et demi.
Et ensuite?
Alors j'en ai gardé un amour indéfectible pour les cordes. Ensuite, j'ai joué du piano, j'ai joué de l'orgue. J'avais un orchestre de jazz à 14 ans. Je séchais un peu les cours aux grandes dames de mes parents qui, évidemment, auraient préféré que je fasse autre chose. Et après, mon cousin Robert Casadesus m'a dit « Si tu veux être chef d'orchestre, ça est un peu tard pour devenir un virtuose du piano ou du violon. Par contre, la percussion est un formidable instrument d'observation. » Donc je suis devenu timbalier solo d'une grande formation parisienne. Et j'ai pu observer les chefs d'orchestre qui m'ont appris beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui vous reste du violon? Vous savez encore jouer? Vous le prenez encore parfois?
Non, je ne joue pas. Mon petit-fils, Thomas, qui est aussi pianiste, joue du violon.
Et le piano, vous jouez toujours?
Et je pianote de temps en temps. Quand je suis très heureux, je me mets au piano et j'ai bougé des éclairs comme ça de génie.
J'ai cru que vous allez dire quand je suis très sous.
Mais il faut choisir. J'écrivais de la musique à un moment donné. Et puis après, je me suis dit, je vais quand même laisser la place pour mon frère qui est compositeur.
On va se concentrer sur le violon. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Et là, c'est un petit instant promo, parce que Laure, vous venez de publier chez Talendier ce livre Paganini, Le violoniste du diable. Et alors, pourquoi aller chercher midi à 14h devant Jean-Claude Casadesus? Je vous ai demandé, c'est moi qui vous ai demandé de nous dire qui était Paganini, pourquoi il est si important. Rien que dans la quatrième de couverture, j'ai trouvé cette phrase, ce chiffre absolument hallucinant. Paganini serait capable de produire 2272 notes en 3 minutes seulement. Est-ce vraiment possible ou est-ce que vous faites ça pour attirer le lecteur?
Non, bien sûr, c'est possible. Évidemment, vous le connaissez, Jean-Claude Casadesus, Paganini.
C'était monstrueux. Et alors, quand j'étais au conservatoire, en classe de percussion, on travaillait le mouvement perpétuel. Do ré do si do ré mi, do ré do si la sol la si do ré mi fa mi sol fa mi ré mi fa mi ré do ré mi fa sol fa mi ré do mi la sol fa mi ré do si ré sol fa mi ré do.
Fantastiquement virtuose.
Etc. Et ça rendait fou.
Très difficile.
Mais alors lui, il le faisait encore plus vite.
Et ben voilà. Exactement. Les voilà les 2000 notes en 3 minutes. Alors on va pas les entendre ici, mais on a par exemple un exemple. Il a révolutionné la manière de jouer du violon Paganini au 19e siècle, star italienne, première rock star, moi je dirais, de la musique classique. Voilà par exemple ce que ça pouvait donner. On entend entend ici le cinquième caprice de Paganini, et Paganini sans doute devait le jouer encore plus vite. On entend ici un jeune violoniste fantastique, Andrei Baranov. Alors il faut s'imaginer qu'à l'époque, tout le monde est subjugué lorsqu'il voit Paganini en concert. Imaginez.
Il avait des mains énormes.
Des mains immenses, oui. Des doigts très longs. Victor Hugo, Chopin, Delacroix le peintre, Schubert sont tous subjugués. Schubert dira « J'ai entendu chanter un ange complètement ».
Il ressemble à quoi ce paganiste? En quelle année d'ailleurs?
Alors justement, oui, vous le disiez, on est au début du 19e siècle. Il avait de longs doigts, il avait de longs cheveux noirs qui lui tombent sur le visage, une pâleur aussi cadavérique, des yeux perçants. Et il était sans doute atteint du syndrome de Marfan. Donc c'est une maladie qui est assez handicapante physiquement pour beaucoup de gens, mais qui lui donnait, j'allais dire, des capacités parce que ça rendait ses doigts élastiques. Et grâce à ça, il a pu faire aussi des acrobaties. Ça n'explique pas son génie, mais c'est en partie sa constitution physique. Alors son apparence combinée à son jeu fait que beaucoup de gens à l'époque sont persuadés que Paganini est le diable en personne ou qu'il a pactisé avec lui en échange de pouvoirs musicaux inouïs. Et Jean-Claude Casadesus, vous serez peut-être d'accord avec moi, je trouve que Paganini n'est pas juste un virtuose, mais qu'il y a aussi énormément de musicalité chez lui, la mélodie, le chant.
Mais là, ce qu'on entend, c'est lui qui l'a composé.
C'est lui qui l'a composé. Compositeur, bien sûr, virtuose et compositeur. Là, la campanella, le concerto. Les mélodies sont souvent superbes chez Paganini, presque parfois aussi belles que du Mozart, si j'ose le dire. Et il y a aussi de l'humour, écoutez, comme dans cette adaptation de l'hymne britannique « God Save the King ».
Vous savez à quoi ça me fait penser? Un siècle et demi plus tard, c'est Jimi Hendrix qui reprend l'hymne américain en le transformant et en le pimpant, si j'ose dire. Vous nous parlez de son côté diabolique lors d'Autriche. C'est juste temporaire? C'est quand il était jeune ou toute sa vie il était comme ça?
Toute sa vie, ça va le poursuivre. Alors il va travailler à la cour en Italie, la cour de la sœur de Bonaparte, Elisa Bonaparte, puis celle de l'ex-impératrice des Français, Marie-Louise. Il sera aussi chef d'orchestre, vous le savez peut-être, à la fin de sa vie. Il voyagera partout en Europe, faisant déplacer les foules, alors des bourgeois autant que les paysans. C'est ça aussi Paganini, c'est quelqu'un qui rassemble autour de lui toutes les classes de la population. Il touche aussi ceux qui ne connaissent rien à la musique parce qu'avec son violon il imite le cri des animaux, donc grâce à ça il touche les paysans qui ne savent pas lire la musique. Mais le fait d'être associé au diable va lui coûter cher parce qu'à sa mort à Nice en 1840, on lui refuse un enterrement catholique. Son corps sera trimballé pendant plus de 30 ans, caché, pour empêcher les curieux d'approcher le maestro, et puis il sera finalement enterré bien plus tard. Paganini est encore beaucoup joué aujourd'hui, y compris dans les concours internationaux de violon où ses pièces redoutables font toujours très peur aux candidats.
Oui, mais ce qu'on oublie de dire, si vous voulez, c'est qu'au-delà de le génie, la passion, c'est nourri par un travail intense.
Bien
sûr. Picasso qui disait, on lui disait, comment vous faites? Il disait, c'est du travail, et encore du travail. Mmh. Et je vais ajouter 5% de dons, 95% de transpiration.
Voilà.
Donc c'est nos métiers, c'est avant tout une immersion totale dans un travail extrêmement exigeant.
Et en tant que chef d'orchestre, vous confirmez ce que dit Lord d'Autriche, ça fait encore peur Paganini aux violonistes qui arrivent?
Ah oui, tout à fait. Bah oui, il faut atteindre le niveau. Hein.
Ouais.
Il faut se hisser à la hauteur, si possible, s'approcher de la hauteur du maître.
Merci beaucoup Lord d'Autriche. Je rappelle le titre de ce livre, Paganini, le violoniste du diable, c'est publié chez Talendier. On va parler cuisine dans un instant, c'est ça Culture Média, la gastronomie c'est de la culture, mais d'abord musique, Jérémy Frérot.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe.
Avec vous, on va parler de gastronomie. Jean-Claude Casadesus, vous allez aimer cette rubrique. Hélène Manarino l'a dit, vous êtes un fin gourmet, vous cuisinez le maigre en croûte de sel à la perfection. Et vous prenez aussi
avec un beurre de gingembre.
Et vous prenez
au citron.
Avec un petit déjeuner crétois, ça ne pouvait pas mieux tomber parce que Charlotte, le retour des terrasses, le retour du soleil, ça donne des envies de cuisine méditerranéenne.
Oui, Philippe, avoir chaud et se faire plaisir à table, c'est possible. C'est même notre projet pour les prochaines semaines. Car qui dit déconfinement estival, dit terrasse pleine et menu adapté à la chaleur. Alors, on passe tranquillement en mode méditerranéen, dans l'attitude et dans l'assiette, avec, vous savez, tous ces petits plats sans frontières, tous servis en même temps à picorer à plusieurs, qui forment un grand apéro dînatoire. C'est métissé, c'est festif, c'est ensoleillé. Et en matière de plats à partager, les pays du Sud jouent en Ligue 1, si vous me permettez l'expression.
Bah, normal.
L'Espagne a ses tapas, l'Italie ses antipastis, le Liban, la Grèce leur mezzé, et puis que dire de la cuisine israélienne, arménienne, turque, hein ? Fromage assaisonné, houmous, feuilles de vigne, légumes marinés, boulettes de viande. C'est l'idéal pour l'été. J'espère bien que vous avez faim. C'est l'idéal parce que ces recettes, elles sont souvent végétariennes et puis elles comportent beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes, basilic, menthe, persil. Ça rafraîchit le palais, le corps, et puis ça appelle les soirées d'été qui s'étirent dans le jardin ou en terrasse.
Ouais. Ça vous fait saliver. Mais ouais. Vous avez oublié le cumin.
Ouais. Oh bah oui.
Très important.
Ça fait voyager par la... Alors où est-ce qu'on peut déguster tout ça ?
Alors, ça tombe bien, parce que cet été, il y a plusieurs restaurants éphémères qui ouvrent en extérieur, avec pile ce genre de menu, et puis dans une ambiance plutôt festive, ce qui tombe plutôt bien pour la fin du couvre-feu dimanche. Hein. Alors, on ouvre le bal avec Manzili, au cœur du Jardin des Plantes à Paris, qui est tenu, vous savez, par le vainqueur de l'émission Top Chef de cette année, Mohamed Cheikh.
Il est venu dans l'émission.
Voilà, et au menu, alors lui, il met un DJ le soir et des mezzés très variés, un houmous à la tahina, caviar d'aubergine fumée, tarama, meshouya, chou-fleur frit au tzatziki et pistaches. Du côté du bois de Vincennes, vous avez un nouveau Rosa Bonheur à l'Est, avec toujours une jolie ambiance musicale. Ça propose des tapas de Camargue, avec entre autres des brochettes de taureau au barbecue, s'il vous plaît.
Il n'y a pas que Paris.
Non, il n'y a pas que Paris. On descend à Lyon, si vous voulez bien. On trouve un comptoir à falafel dans le tout nouveau food court baptisé Food Society. Et si on pousse jusqu'à Nice, à l'Hôtel Amour, il met le cap sur la Grèce carrément, avec des produits sourcés par Alexandros Ralis de Profil Grec. Et sur le rooftop de l'hôtel, bah, c'est carrément les vacances. Hein. Grillade, cocktail, piscine. Et puis dans l'assiette, tzatziki, bougiourdi ou les fameux beignets de courgettes à la sauce au yaourt appelés Kolokito Keftedes.
Je vais vous dire, je vais aller à Nice, ni à Lyon, on peut faire ça chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi ?
Alors oui, on peut faire quelque chose chez soi, on peut piquer une recette au talentueux chef Julien Sebag, qui est aux manettes de Forest. C'est un restaurant en terrasse qui a ouvert pour l'été au pied du musée d'art moderne à Paris. Alors il y sert des poivrons caramélisés, une salade de roquette avec halloumi, rôti au miel, plein de plats géniaux. Et moi, je lui ai demandé la recette de son labné. Le labné, c'est un plat incontournable des mezzés, surtout au Liban. Il est moins connu que le houmous ou le caviar d'aubergine, mais il est tout aussi délicieux. Alors, on prend un yaourt de chèvre ou de vache, hein, si vous n'avez pas. Vous le laissez essorer tranquillement dans un linge, dans une passoire, au-dessus d'un saladier, pendant 24 heures, au frigo, pour qu'il se vide de son eau.
Vous faites rire Jean-Claude Cazette.
Il faut retenir tout ça.
Hein. Oh, ouais. Non. Là, vous le laissez tranquille au frigo pendant 24 heures, et puis en fait, il va rester une sorte de yaourt intense, épais, crémeux, qu'on va ensuite assaisonner avec plein d'huile d'olive, évidemment, et plein d'épices. C'est souvent du zaatar, hein, ce mélange typique hein, de sésame, thym, origan et sumac. On le mange avec du pain pita à volonté, hein, je vous le dis. Ouais. Et Julien Sebag, lui, il le personnalise encore un peu plus.
Parce que là, c'était simple,
bah oui.
Jean-Claude.
Ça, c'était la recette de base. Et après, donc, vous pouvez, comme lui, rajouter une gousse d'ail confite, de la rhubarbe en pickles, c'est la saison, des cacahuètes, de l'amande ciselée, et puis si vous trouvez, mais vous pouvez, de la poutargue de thon, ou de la poutargue tout court, c'est des œufs de saumon saumurés et séchés.
Et pas de confiture de groseille.
Mais faites-le, essayez, franchement, ça se marie avec tellement de choses. C'est bon, c'est frais, c'est simple à réaliser, moi je vous dis, pour le.
Moi
la
je vous en recommande une petite recette très simple pour entrer, un avocat, des crevettes, une mangue et du saumon fumé.
Ah oui. Bah oui. Tout simplement.
Je précise,
c'est bon.
Pour les gens,
mélanger, hein.
C'est vrai, la
pour
menthe,
les
ça
gens
très bien.
Qui veulent entendre la recette de Charlotte, vous réécoutez Culture Média en podcast.
Voilà,
la table des bons vivants, le programme, vous y serez avec l'ami Laurent Mariotte.
Demain, de 11h à 12h30, l'invité, ça sera la bonne vivante Mathilde Seigné. Et il y aura un dossier sur la cuisine, toujours ensoleillée, sicilienne, hein, avec des beaux produits simples. Et le chef Ignacio Messina.
Merci beaucoup, Charlotte Langrand.
Merci.
Bravo.
Bon
commentaire,
appétit.
Ça donne faim. Hein.
Oui, ça fait saliver.
C'est la dernière ligne droite de Culture Média. On est avec le chef Jean-Claude Cazette. On s'en réjouit. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie du grand chef d'orchestre Jean-Claude Cazatzu, qui va diriger le concert de clôture du Lille Piano Festival, festival qu'il a fondé. Ce concert de clôture, ce sera dimanche soir et le festival, ça commence aujourd'hui, vendredi. C'est assez rare pour être signalé, on en parlait avec Laure d'Autriche dans la musique. Vous avez commencé non pas par le piano, la flûte à bec, mais par le violon, puis ensuite passé aux percussions, parmi elles le triangle, les cymbales. Vous étiez timbalier, vous avez été premier prix de percussion au Conservatoire de Paris. Et je ne peux pas m'empêcher de vous faire entendre ce sketch de l'humoriste Alex Vizorek qui se pose les bonnes questions.
Des joueurs de cymbales, est-ce que il y en a un des meilleurs que d'autres. Et oui, parce que déjà, normalement, on n'en connaît pas. Alors, je vous ai charrié, évidemment. Mon public est toujours plus cultivé que moi. Alors, je le tente. Si vous deviez citer un seul nom, vraiment, votre joueur cymbaliste préféré, celui dont vous ne ratez jamais la sortie du nouvel album solo. Il n'y a pas un nom qui jaillit, hein.
J'ai accompli le rêve d'Alex Vizorek. Poser la question à quelqu'un qui a commencé sa carrière musicale par les cymbales, le triangle, parce que vous étiez timbalier. Est-ce qu'il y a des meilleurs timbaliers que d'autres ?
Ah ben bien sûr, mais c'est un instrument extrêmement exigeant qui demande une très bonne oreille pour accorder les peaux qui doivent être dans le ton qui est demandé par le compositeur. Il faut beaucoup de rythme, c'est le bras séculier du chef d'orchestre. Un mauvais timbalier peut faire complètement tanguer un orchestre et c'est un poste d'observation tout à fait exceptionnel pour apprendre surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Un mot au sujet de votre enthousiasme, de votre énergie. On l'a dit, vous avez 85 ans, vous faites vraiment tous les jours 45 minutes de gymnastique, de yoga, de musculation.
Ouais, j'essaye. Quelquefois, je ne fais que 35 minutes.
J'ai lu mieux, c'est dans Le Parisien, c'était pendant le confinement. Le 7 décembre, Le Parisien, il parle de vous. Pendant le confinement, il courait sur son balcon de 30 mètres de long au 5e étage de son appartement parisien. Vraiment ?
Ah oui, je faisais du jogging sur mon balcon et on ne pouvait pas sortir. Oui, c'est... Alors, il faut, voilà. Mais l'entraînement de la volonté, c'est quelque chose d'important dans mon métier. Et puis, ça génère aussi ce que la concentration exige.
Hélène Manarino a dit la passion que vous avez pour le tennis, vous jouez encore et vous comparez souvent le métier de chef d'orchestre avec le tennis. À quel titre ? Parce que c'est quand même très éloigné.
C'est très très proche.
Ah
vous
bon
savez, les qualités exigées d'anticipation.
Pardonnez-moi, il devez... y en a un qui est tout seul, le joueur de tennis, et l'orchestre, ça
Le chef d'orchestre, il est tout seul devant l'orchestre, et c'est lui qui doit solliciter, non pas la balle de tennis, mais la sonorité. Il doit entendre, avant que l'instrumentiste ne joue, ce qu'il souhaiterait entendre, par transmission de pensée, il l'obtient. C'est quelque chose, il faut avoir une pensée du son comme on a une pensée de la balle, avec aussi le son de la balle. Vous savez, il y a des balles qui sonnent très bien,
ouais.
Il y en a qui sonnent moins bien. Ouais, et c'est pareil, il faut que le geste soit adapté, il faut que le cœur soit en relation avec la technique, il faut ne pas regarder où on veut que la balle aille, mais on doit penser où elle va par la position. On doit avoir un geste adapté pour le hautbois, la flûte, la percussion, la grosse caisse, les violons. La sonorité, ça passe par, voilà, ça passe par une pensée intérieure et une énergie qui monte du sol. Et puis, alors, vous avez la main droite qui indique le chemin et la main gauche qui donne l'expression.
Et je précise que c'est Jean-Claude Casactu qui fait lui-même ses bruitages sonores. Les concerts, vous reprenez quand et surtout où ? Où les concerts ?
Bah écoutez, les concerts, j'en ai malheureusement 21 qui ont été annulés et 11 programmes, mais ça recommence doucement. Là, je devrais être au Japon et en Chine. Bon, à la rentrée, je vais dans les pays baltes et ensuite en Russie. Et ensuite, je retourne au Japon et après aussi en France.
Vous vouliez dire quelque chose au sujet des salles de concert ?
Écoutez, la salle de concert, c'est l'instrument d'un orchestre. J'avais décidé de transmettre mes responsabilités à l'Orchestre de Lille, que j'ai décidé d'engager un nouveau directeur général et puis de contribuer à l'engagement d'un jeune successeur. Quand j'aurai une salle digne de ce nom, ça m'a pris 10 ans et je remercie la région et son président Percheron d'avoir compris avec intelligence combien une salle est fondamentale. Alors je dirige un orchestre très valeureux qui est l'Orchestre de Picardie et je le dis aussi puisque comme le président de la République qui a eu l'intelligence de ainsi tout le monde à lire, eh bien je souhaite de tout mon cœur qu'un jour un responsable politique incite aussi ceux qui l'entendront à écouter de la musique. Bah. Et la salle, c'est l'instrument de l'orchestre et l'orchestre de Picardie n'a pas de salle. Alors je le dis, je lance un message pour les responsables politiques, il faut donner une salle à l'orchestre de Picardie qui fait un travail formidable dans sa région aussi.
Le message est passé, merci Jean-Claude Casactu. On entend Malheur, c'est vous qui dirigez le Chant de la Terre, c'est le dernier album que vous avez enregistré, c'était l'an dernier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle Lille Piano Festival, festival fondé par vous. C'est aujourd'hui, demain et dimanche. Je ne l'ai pas dit, de 5 à 25 euros la place seulement et 10 euros seulement le Pass Festival. Nous, on se retrouve lundi à 9h dans Culture Média. On sera avec Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV pour le bilan de fin de saison de sa chaîne et le dispositif mis en place pour les régionales. Et puis l'animateur et humoriste Monsieur Poulpe pour Crac Crac, son émission qui explore la sexualité. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. off, ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Je vous dis à lundi, je vous dis encore merci Jean-Claude Casadesus.
Merci de votre accueil.
Bonne journée.
Wow. Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.